Et donc là, vous allez vous imaginer qu'il y a Patrick Rayou qui est là. En fait, Patrick Rayou, il s'est fracturé le fémur mardi. Et donc, on était un petit peu embêtés. Et donc, on a été travailler avec lui vendredi. On a passé un peu de temps ce week-end à ça. Et Patrick Rayou vous a préparé quelque chose spécialement fait pour vous, sur lequel on va essayer d'articuler quelque chose. Donc ce qu'on vous propose pour le temps à venir, on a essayé de réfléchir avec Cynthia et Stéphane. On va vous proposer trois temps. 30 minutes avec Patrick Rayou qui va traiter la conférence qu'il avait préparée pour aujourd'hui. Mais comme c'est en vidéo et c'est moins agréable que s'il était là, on va raccourcir, on va faire que 30 minutes. Puis Stéphane va nous montrer un document qui, selon nous, illustre un certain nombre de choses que Patrick Rayou dit. J'en dis pas plus, mais c'est une pratique de classe qu'on ne va pas vous montrer là pour vous dire qu'elle est bonne ou mauvaise, mais pour illustrer un certain nombre de propos. Puis, on va vous proposer encore quelques extraits, issus non pas de la parole de Patrick Rayou, mais de quelqu'un qui travaille dans son équipe, qui s'appelle Jean-Yves Rochex, qui discute avec quelqu'un qui s'appelle Mérieux, dans une petite émission de télévision. Ça, ça va être notre partie pendant une heure, à peu près, apport théorique. Cet apport théorique, je pense qu'il est assez simple à suivre parce que il est fait par des gens qui sont d'une grande qualité, mais peut-être qu'il va vous être exigeant, peut-être qu'il va vous gratter, peut-être qu'il va vous dire des choses que vous allez trouver désagréables. Et on parle bien là à différents métiers, hein, chef d'établissement, inspecteur, professeur, préfet des études, cordeau, etc. Donc la consigne qu'on vous demande, c'est vous prenez votre feuille, vous notez deux colonnes. Le truc qui dit où je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, et de l'autre côté ce machin-là, mais franchement là, ça me hérisse, ça m'agace, je ne suis pas d'accord avec ça. Et voilà, c'est bon sur la consigne.
On parle parfois des milieux difficiles. Moi-même, je fais un cours qui s'appelle enseigner en milieu difficile. Et l'idée de milieu difficile, c'est presque devenu quelque chose de substantiel. Il y aurait des milieux difficiles. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de se demander, mais difficile pour qui ? Parce qu'évidemment, les enseignants ont l'impression que c'est pour eux. Les élèves ont l'impression que c'est pour eux. Les chefs d'établissement ont l'impression que c'est pour eux. Les parents aussi. L'idée est d'essayer de regarder si ces difficultés n'auraient pas des origines, voire des structures communes. C'est un peu l'exercice auquel je vais me livrer là.
Les inégalités, pour toi, c'est quand même, ça reste le fondement d'une analyse pertinente sur les difficultés des élèves.
Je crois que ça reste le fondement, parce que si ces inégalités n'étaient pas avérées et persistantes, on peut imaginer que bien des difficultés seraient levées. Et on peut d'ailleurs imaginer aussi que si des difficultés étaient levées, les inégalités ne seraient pas persistantes. Pour s'en tenir simplement au point de vue des élèves, on voit qu'ils décryptent très souvent et très largement le monde scolaire à travers une vision de la justice. J'insisterai pas là-dessus, mais j'ai pas mal travaillé cette question. Beaucoup d'élèves estiment que ce système est injuste, et les sociologues leur donnent pas tort. Ils pensent qu'ils sont pas payés en fonction des efforts qu'ils ont consentis, etc. Donc oui, en effet, cette question des inégalités, elle me paraît prégnante, et je dirais malheureusement pour nous et notre système éducatif, enquête internationale, vous pouvez peut-être voir derrière moi un petit compte-rendu de la Cour des comptes sur les résultats de l'enquête PISA 2000-2009, qui présente plusieurs caractéristiques. Hein. La première caractéristique, c'est qu'il y a une détérioration préoccupante, hein, du PISA repris par la Cour des comptes, reprise par la Cour des comptes, entre les élèves. Une stagnation, voire une régression des performances de la France, voilà, qui, au début des années 2000, se tenait à peu près dans les trois secteurs où cette enquête s'exerce, dans une honnête moyenne, on va dire, mais a tendance à baisser. Donc ça, c'est un premier indicateur qui est un peu inquiétant. Le deuxième aspect, c'est que le fossé se creuse entre les élèves les plus forts et les élèves les plus faibles. Et le troisième aspect, mais évidemment, tout ça va ensemble, c'est que le système scolaire français est un des systèmes dans lesquels les résultats scolaires sont les plus corrélés aux origines sociales et culturelles et socio-économiques des élèves.
Dit autrement, ça veut dire que ce n'est pas parce que les inégalités sociales sont plus graves en France que les inégalités devant l'école sont plus graves. Votre analyse, c'est bien, à partir de ces chiffres, que il y a des facteurs internes qui font que les inégalités sont encore augmentées.
Voilà, c'est ça, je vais y venir, hein, c'est tout à fait ça. L'OCDE fait remarquer que la France se situe derrière. Alors après, on peut toujours contester l'appareil de mesure, certains l'ont fait, mais quand l'appareil de mesure existe et qu'on compare au fil des années et que les résultats vont dans le même sens, ça interroge tout de même. Ce que dit Pisa, c'est que si on regarde le produit intérieur brut par habitant, la France se trouve derrière, hein, un certain nombre de pays qui ont des PIB moindres. Donc l'idée que ça viendrait de l'économie ou de ces structures, je vais y venir, évidemment, elle ne pèse pas rien, mais elle est loin d'expliquer, et on peut... Parfois, on nous reproche ça à notre équipe, hein, mettre en cause l'école elle-même, non pas dans la production, mais dans sans doute l'aggravation des inégalités dans les apprentissages et dans ce qui en sort, c'est-à-dire les certifications et les positions sociales qu'elles permettent d'obtenir. Alors nous avons bricolé une notion, c'est Jean-Yves Robchek, c'est Isabelle Bautier qui en ont été les pionniers, qui est la notion de malentendu socio-cognitif. Alors elle est un peu raide comme ça à s'aimer, dans un exposé relativement limité, mais l'idée c'est que au fond on pourrait imaginer que ni les élèves ne sont des résistants qui n'ont pas envie d'apprendre, ni les familles ne sont, et les familles des milieux populaires ne sont des gens qui se moquent des études et de la scolarité de leurs enfants, ni les enseignants ne sont des gens qui ne pensent qu'à leur congé payé, à leur retraite, et ne font pas ce qu'il faut pour enseigner. Notre idée c'est que il y a à un moment donné des raccordements qui ne se font pas entre ces différents acteurs, et que, et c'est là où c'est un peu poignant, c'est que chacun peut être tout à fait bien intentionné et avoir l'impression de faire ce qu'il faut sans que pour autant les résultats attendus soient présents.
Ils sont dans le même espace, mais leur activité...
Voilà, ils sont dans le même espace, d'où l'idée de malentendu. Hein. Malentendu, c'est quand une personne et l'autre pensent faire la même chose, mais elles le font dans des logiques différentes. Et socio-cognitif, pourquoi ? Parce qu'un des problèmes de l'école, mais c'est consubstantiel, c'est qu'évidemment elle est dans des logiques de l'apprentissage, du cognitif, mais elle aussi dans des logiques sociales, c'est-à-dire qu'il y a des apprentissages de rôle, il y a des finalités de l'école, et qu'il peut y avoir parfois des interférences, hein, que les gens n'aperçoivent pas. Prendre les choses très... donner des exemples très simples, je m'adosse surtout aux travaux de Stéphane Bonnery, par exemple, hein, il vous montre... Comment des élèves qui sont tout à fait de milieu populaire, qui sont tout à fait loyaux envers l'école, qui ont l'impression de faire tout ce que le maître ou la maîtresse demande, au fur et à mesure que les exigences vont augmenter, ne comprennent pas pourquoi ils ont des sales notes, et vont interpréter en termes d'injustice, voire en termes de racisme, dans les cas extrêmes, le fait que, alors qu'ils ont toujours fait ce qu'on leur a demandé, ça ne leur réussit plus. Voilà. Il y a une manière de pas saisir l'évolution de ce que certains pourraient appeler les contrats didactiques, qui fait que, bien se comporter à l'école, être poli, être loyal envers le système, évidemment ça ne suffit pas, même si c'est aussi une condition nécessaire.
Ça part aussi de votre idée que les savoirs de la vie et les savoirs de l'école n'étant pas de même nature, il y a nécessairement quelque chose qui ne va pas de soi.
Alors voilà, c'est justement le point auquel je vais en venir, hein, les élèves de l'éducation prioritaire et la forme scolaire. J'ai là repris une citation d'Olivier Reboul qui dit « S'il existe des écoles, c'est précisément parce que la vie n'en est pas une. » Voilà. Ça, je crois que c'est un point sur lequel on n'insiste jamais assez. C'est que la manière d'être et d'apprendre à l'école, c'est pas la manière d'être et d'apprendre dans le reste de la société, même si évidemment l'école est elle aussi dans la société.
Ça veut dire que même les gens qui disent qu'il faut davantage ouvrir l'école sur la vie, finalement, vous regardez ça vraiment différemment.
Et on regarde ça différemment, parce que si ouvrir l'école sur la vie, c'est faire à l'école la même chose que ce qu'on fait dans la vie, on voit plus vraiment pourquoi il y aurait besoin d'école. Alors, de là à faire passer le balancier de l'autre côté, à penser que l'école doit être un sanctuaire qui n'a rien à voir avec la vie et la société, évidemment, il y a un extrême, mais on a du mal à tenir la part égale entre les deux. Je crois que notre système, aujourd'hui, se cherche beaucoup entre des innovateurs à tout près, on va dire, qui pensent que l'école fait toujours bien quand elle fait autre chose que ce qu'elle a l'habitude de faire, ou d'autres qui pensent qu'il faudrait revenir, hein, à la plume sergent-major et à des manières de faire qui ont un certain succès, mais il y a 200 ans de ça. Voilà. Pour ce faire, nous empruntons, alors peut-être en la tordant, je n'en sais rien, à Guy Vincent qui l'a initié et développé, la notion de forme scolaire, que vous voyez sans doute derrière moi, et qui est cette idée que, à l'école, il y a des manières de faire, et notamment des manières de faire avec les règles. Voilà. Ça veut dire qu'on apprend à l'extérieur de l'école. Si j'apprends à pêcher à la ligne, si je suis un enfant, avec mon grand-père ou avec ma grand-mère, pourquoi pas, je vais apprendre des choses qui sont de vrais apprentissages, mais ça ne va pas, par exemple, donner lieu à examen, il n'y aura pas des séquences qui auront été prévues pour ça, il n'y aura pas des révisions, je ne vais pas pouvoir contester les modes de faire qui me sont appris parce qu'il n'y a pas de règles impersonnelles qui soient au-dessus de nous, il y a des choses qui relèvent du feeling, de l'expérience accumulée. Au fond, je ne pourrai jamais faire la preuve, sinon en fonction de la réserve de poissons qui y est trouvée à la fin. Mais est-ce que ça dépend de la méthode de pêche ou est-ce que ça dépend de l'endroit dans lequel ça s'est produit? Vous voyez, il y a là des choses qui relèvent de modes d'apprentissage pragmatiques, tout à fait féconds, mais qui ne sont pas ceux de l'école. En particulier, l'école protège les enfants. Alors, elle les protège socialement par rapport à une époque où ils étaient à la production très vite. Mais elle les protège aussi parce que les écoles qu'elle organise sont ce qu'on appelle parfois des épreuves papier-crayon. Si vous faites une erreur dans le calcul des horaires de train, vous ne faites pas une catastrophe dans la vraie vie, oui. Donc il y a cet aspect un peu curieux qui est que l'école a pour but de former des gens pour la vraie vie, mais en même temps, elle les forme pour la vraie vie avec des manières qui ne sont pas celles de la vraie vie, sinon elle ne pourrait pas les former. Il y a un paradoxe total qu'on pourrait illustrer encore par le fait que, c'est un exemple que je donne parfois, à l'école, il faut prendre l'habitude, accepter que les gens qui posent des questions sont des gens qui connaissent les réponses et qui les posent à des élèves qui ne sont pas censés les connaître. Dans la vraie vie, si je demande mon chemin, j'espère que je le pose... Alors, vraiment, je ne connais pas mon chemin, sinon c'est pour la caméra cachée. Et j'espère que je pose cette question à des gens qui connaissent le chemin et qui vont me répondre. Voilà. L'école inverse les facteurs. Il y a une fiction, qui est une fiction tout à fait nécessaire et que les élèves normalement admettent, mais peut-être jusqu'à un certain point, et peut-être pas de manière aussi évidente. J'ai pris, que vous voyez derrière moi, un extrait d'un petit roman que je viens de lire récemment, voilà, qui est celui d'une jeune collégienne qui s'étonne, qui est une bonne élève, et qui s'étonne, elle dit ça, elle dit « Il faut dire oui, monsieur, il faut entrer en silence dans la classe, sortir ses affaires, répondre présent, rappelle sans envie une espèce de hiérarchie des actes, de manière audible, attendre que monsieur Marin donne le signal pour se lever quand retentit la sonnerie. » Ah oui, on ne se lève pas quand on veut. « Ne pas balancer les pieds sous sa chaise, ne pas regarder son portable pendant les cours, ni jeter un œil à la pendule de la salle, ne pas faire des tortillons avec ses cheveux, ne pas faire de messe basse avec son voisin ou sa voisine, ne pas avoir les fesses à l'air, ni le nombril. Il faut lever le doigt pour prendre la parole, avoir les épaules couvertes même s'il fait 40 degrés, ne pas mâchonner son stylo et encore moins une chewing-gum. » Et j'en passe. Voilà comment peut apparaître l'école, ici évidemment sur le mode plaisant, mais comme un univers de contraintes fortes, contraintes des corps, contraintes des manières de faire, qui va très bien pour des élèves qui arrivent déjà élèves à l'école. Nous, nos enfants enseignants, ils sont déjà très formatés par toutes sortes de conversations et d'activités pédagogiques diverses et variées qui n'arrêtent jamais en famille. Il faut bien imaginer que ce n'est pas le cas pour les élèves dits de milieux difficiles et que c'est peut-être un élément important de leurs difficultés. Le petit texte suivant, je l'ai emprunté à Bernard Lahire dans un texte consacré au rapport à l'écriture des enfants du milieu ouvrier. Et ça répond un peu à la question que tu m'as posée. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup, mais à une époque, les enseignants demandaient souvent, lorsqu'ils voulaient obtenir des rédactions du texte de la part de leurs élèves, de raconter les événements qu'ils avaient vécu au moins. On n'allait pas parler de la Joconde ou de je ne sais quelle structure abstraite. On allait parler de choses qu'ils connaissaient. Et on pouvait imaginer, dans un souci de démocratie, qu'on allait mettre à leur portée l'exercice. Le problème, c'est que ça peut s'avérer un piège redoutable. Parce que pour les élèves, raconter un moment agréable ou désagréable de ses vacances, si c'est raconté comme dans la vie sociale, lorsqu'il raconte à ses copains ou à ses proches, ça n'a pas du tout les mêmes attentes que celles de la rédaction, qui est un genre qui suppose de la décontextualisation, qui suppose de la hiérarchisation, qui suppose certains temps particuliers, le passé simple qu'on n'emploie plus jamais dans la vie, qui suppose une conclusion en forme de morale. Voilà, il y a tout un appareil qui paraît évident aux lettrés, mais qui n'est pas forcément. Et ce gamin de CM1, père ouvrier, mère sans profession, voilà le texte qu'il produit, et l'AIR nous en donne beaucoup de ce genre. « Je suis parti à Kublis. » Alors, on nous dit que c'est un petit village situé dans la Loire. Mais il est évident que pour le gamin, Kublis, tout le monde connaît, puisqu'il y habite ses grands-parents, etc. « J'étais avec mes sœurs. » Alors, pas de commentaire sur l'orthographe, c'est encore une autre histoire. « Ma mère, mon père. » Une fois, ma mère m'a acheté un ballon de plage. Alors, je lui ai dit merci. Ma petite sœur a appris à marcher. À la base, j'étais contente. Et je la faisais marcher un jour. J'ai été à la plage me baigner. Un jour, ma mère m'avait engelé parce que j'avais été à la plage. Une fois, j'ai fait le tour du lac en vélo avec ma copine. Puis j'ai ramassé des fleurs à ma mère. Elle me disait « Merci, pour faire le tour du lac, il faut une heure et demie. » Alors je suis arrivé pour manger. J'avais amené mes pâtés à roulette, ma mère m'avait acheté des bonbons. Je lui ai dit merci, puis le soir je me couchais à 10h, on avait la télé. Je ne comprends pas bien la fin s'ils se couchent à 10h parce qu'ils avaient la télé ou parce qu'ils n'avaient pas.
Pas la télé,
je pense ouais. que c'est qu'on ne l'avait pas. Ce qui veut dire qu'ils se couchent plus tard d'habitude. Mais on a un gamin tout à fait civil, qui est extrêmement gentil avec sa maman, qui ramasse des fleurs, qui est socialement tout à fait positif. Le problème, c'est que pour lui, voilà, il y a cet effet de leurre, hein, je crois qu'on peut aller jusque-là, qui fait qu'en racontant ses vacances sur le mode de la juxtaposition, sur le mode de la connivence avec des proches, et évidemment, il passe très très largement à côté des exigences minimales de l'écrit scolaire. Alors, ben, les enseignants, de notre côté, ils ont dans leur esprit un élève idéal. Ils ont dans leur esprit un élève idéal pour plusieurs raisons, parce qu'ils l'ont été eux-mêmes, souvent, bon, ils essaient au moins de le faire croire, ils ont été de bons élèves, évidemment. Ils n'ont souvent pas été eux-mêmes élèves dans les zones dans lesquelles ils enseignent lorsqu'il s'agit de l'éducation prioritaire. Et il faut dire aussi que non seulement ils ont été des élèves idéaux, mais au cours de leur formation, qui, comme on le sait, sauf à montrer que la nouvelle masterisation va apporter des changements bouleversants en matière, ils ont été formés essentiellement d'un point de vue académique. Alors, c'est surtout vrai pour le second degré, néanmoins, pour le premier degré, il n'y a pas non plus, je pense, dans les plans et la réalité de la formation, d'efforts particuliers qui permettra à ces enseignants de contextualiser leurs enseignements et de comprendre véritablement de quoi il s'agit pour les élèves en question et le fossé hein, qu'il s'agit de les aider à sauter pour accéder aux règles scolaires. Je reprends une distinction que je trouve bien commode que fait Claude Dubard, qui est ce qu'il appelle l'identité biographique et l'identité relationnelle. Quoi. L'identité biographique, ça marche pour des enseignants parce qu'en général, ils se sont consacrés aux études. Ils ont décidé de faire ce métier pour une grande partie d'entre eux ou pour une grande raison pour chacun, parce qu'ils aimaient la discipline, alors c'est plutôt vrai pour le second degré. Ensuite, parce qu'ils aiment les élèves, on va dire les enseignants de second degré, quelques années après leur début, déplacer un peu le curseur et se rendre compte que les élèves sont une part importante de l'enseignement, ce qui n'est pas forcément acquis au début. Mais il faut bien voir qu'ils ont passé un concours devant des jurys de gens qui sont acquis aux enseignements, qui sont acquis aux disciplines académiques, et qui ne sont pas évalués, ils sont évalués à blanc d'une certaine manière, ils ne sont pas évalués en fonction de leur capacité à prendre la mesure de la nature des élèves, de leur état cognitif, si je puis dire, des bagages qu'ils ont, qu'ils n'ont pas, et des possibilités de remédiation qu'il faudrait mettre en place. Voilà, donc il y a cette identité biographique, identité pour soi. Moi, je me définis comme un enseignant qui aime sa discipline. Mais le travail met aux prises avec ce que Dubard appelle l'identité relationnelle ou l'identité pour autrui. Et là, évidemment, le grand écart est tout à fait important. Il peut aller jusqu'à une espèce de déchirure, puisque les enseignants obligés de s'adapter à des publics risquent de passer un temps important de leur début de carrière à se dire qu'ils ne font pas ce pour quoi ils ont été préparés, qu'ils ne font pas le métier qu'ils ont souhaité faire, avec les sacrifices qu'elle avait. C'est toujours pas facile d'être recruté comme enseignant, on aurait pu faire autre chose, on peut avoir des métiers plus lucratifs, etc., surtout dans certaines disciplines, évidemment. Et donc, la souffrance au travail, hein, dont parle ma collègue Françoise Lantôme et d'autres, elle est largement dans ce partage, dans cette déchirure identitaire, entre le prof idéal qu'on voudrait être et qui enseigne des élèves idéaux, et le prof réel qu'on est obligé d'être et qui enseigne des élèves réels.
Et ça, c'est plutôt une analyse que vous faites qui concerne les enseignants débutants, la première année, les premières années, ou c'est quelque chose qui va...
Je crois qu'on n'a pas trop d'enquêtes sur des enseignants de milieu de carrière, parce qu'on est évidemment polarisé sur ceux de l'entrée. Et ceux de l'entrée, tout naturellement, ils sont portés à raisonner comme ça, parce qu'ils sont affectés dans le milieu difficile. Lorsqu'ils réussissent à bonifier leur carrière, on imagine qu'ils vont trouver d'autres publics et que le divorce sera moins intense. Les sociologues américains parlent pour les enseignants de carrière horizontale, comme ils n'ont pas la possibilité... Il n'y a pas beaucoup de hiérarchie, les enseignants n'en veulent pas en général, pas beaucoup de possibilités de progresser dans la carrière elle-même. Donc le moyen d'améliorer sa carrière, c'est de la bonifier en se déplaçant sur le territoire, pour avoir des publics moins difficiles.
Mais on trouve aussi, alors peut-être plus dans le premier degré, des enseignants chevronnés qui font le choix de rester dans ces zones difficiles. Et peut-être que là, on manque encore d'enquête sur comment ils durent dans le métier, pour reprendre le travail de François.
Il y aura un vrai travail à faire. y compris d'enseignants qui disent « Je suis heureux d'avoir été affecté dans les zones d'éducation prioritaire parce que là, j'ai appris mon métier comme je ne l'apprendrai aussi bien nulle part ailleurs. » Et d'une certaine manière, qui peut le plus, peut le moins. Et ça, certains, y compris retrouvés quelques années après, dans la mesure où ils ont traversé cette expérience de façon positive, se réjouissent d'avoir été au contact des difficultés les plus intenses qui soient.
En tout cas, tu parles de re-socialisation professionnelle.
Re-socialisation professionnelle, parce qu'évidemment, c'est la socialisation qui a été la socialisation à l'université, voire à l'IUFM ou à l'ESP. Il va falloir se donner d'autres types de comportements, d'autres règles de métier sur le tas, je dirais. Parce que la resocialisation professionnelle, elle ne vient pas nécessairement de la formation officielle. Elle vient de ce qui se diffuse dans le milieu de travail, dont je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance dans l'activité formatrice des enseignants. C'est des activités souvent clandestines qui rentrent en tension avec les formations officielles. Et les enseignants sont parfois entre les deux cultures, une culture développée pour l'IFM, l'ESP ou l'inspection, et une forme de culture développée sur ce qu'il y a pour eux la vraie légitimité, c'est-à-dire le terrain. Et pourquoi ça, les légitimités? C'est parce que là sont les gens qui souffrent, et non pas les gens comme moi qui viennent pontifier en racontant des généralités sur l'éducation, et dont on soupçonne qu'ils n'ont jamais fait cours en milieu difficile. Le petit extrait que vous voyez derrière moi a été... pris dans un bouquin que j'aime bien, qui a été édité par le CRDP de Créteil, et qui a consisté à demander à des enseignants de nombreuses générations de raconter leur entrée dans le métier. J'ai choisi là un extrait peut-être un peu atypique, mais peut-être pas tant que ça, Janine Rovet, qui a fait son stage d'agrégation en 1967, et qui dit ceci. « Entre mes rentrées d'élèves et mes rentrées de professeurs, c'est la même continuité qui l'emporte. Aucune première classe ne se détache. » Mes débuts ne firent pas événement dans ma vie comme ils l'auraient dû. Enseigner, c'était plus une logique qu'un choix. Élève heureuse, je vivais dans un tissu solide d'équivalence. Le savoir était le pouvoir, garantie d'égalité, tout le monde y avait accès, et d'une démocratie éclairée par l'étude. Les plus travailleurs, les plus acharnés iraient le plus loin. Ils écriraient comme Jules Verne, Camus, Sartre, ou bien comme Voltaire ou Zola, car écrire faisait se rencontrer justice et raison, style et savoir, république et révolution. Bon, évidemment, on est en 1967, et donc on peut imaginer que certains sont déjà prêts pour certains grands soirs, en tout cas certaines grandes soirées, mais je crois en effet que cette espèce de logique bien réglée qui faisait que les enseignants passaient du monde relativement feutré de leurs études à celui d'élèves qui leur ressemblaient comme eux-mêmes quand ils sont entrés dans l'enseignement est une période qui n'y a jamais révolu, sauf peut-être dans quelques grands établissements et encore. Et qu'il y a là un objet, il y a presque muséifié, qu'il convient de regarder, pour se dire qu'il ne faut certainement pas fantasmer sur cette époque-là, parce que, encore une fois, elle est révolue. Et le type de formation qu'avaient les enseignants était très certainement tout à fait adapté à cette époque-là, parce qu'il suffisait en effet d'être formé soi-même, Jules Verne, Camus, Sartre, Voltaire ou Zola, de manière à pouvoir établir cette série d'équivalences.
Donc ça tranche avec le témoignage suivant.
Alors ça tranche avec le témoignage suivant de notre ami Anaïs, certifié mathématique dans un dispositif d'éducation prioritaire, je crois qu'il a disparu aujourd'hui, mais qui était un dispositif assez musclé. J'ai appris que j'étais ici vers le 15-20 juin, bon ça c'est classique éducation nationale, rien de particulier. Dans l'heure qui a suivi, j'ai appelé parce que j'étais un peu paniqué d'être là. Donc j'ai appelé, et je pense que j'ai eu la dame qui est dans la loge, qui m'a complètement paniqué en me disant « Ma pauvre !» Qu'est-ce que vous venez faire là? C'est une catastrophe, il y a le feu dans la cité. Ça brûlait en face justement à ce moment-là, donc le premier contact a été terrible. Alors évidemment, il n'y a pas le feu dans toutes les cités de tous les collèges d'éducation prioritaire, mais quand on a collecté quelques dizaines de témoignages d'enseignants débutants dans ces zones-là, on voit bien la difficulté des débuts, la difficulté, comme le disait un de mes étudiants qui a fait son mémoire là-dessus, de faire le tour du bureau, de passer d'une identité à l'autre, avec des élèves qui n'ont pas l'appétence au savoir supposé, surtout quand on est au niveau du collège, parce que là aussi il faudrait graduer un petit peu les...
Oui, du coup, de cette inquiétude initiale, sans doute peut-être une tentation d'un certain nombre d'enseignants à confondre le maintien de l'ordre et l'engagement au travail, à surinvestir les dimensions disciplinaires, c'est ce fameux « pas un sourire avant Noël ».
Oui, c'est ça, on a une dissociation chez les jeunes enseignants de ce qui relève de l'ordre du comportement à ce qui relève de l'ordre de l'apprentissage. Le film qui a poussé la métaphore à son paroxysme, pour moi, c'est la journée de la jupe, c'est-à-dire cette enseignante qui est confrontée à des situations difficiles, qui sait parfaitement de quoi elle doit parler, qui n'a pas de problème académique particulier au niveau de ses connaissances, illustre, matérialise le fantasme de pouvoir faire cours à une classe qu'on tient en respect. Il faudrait que les élèves puissent respecter les choses, et une fois qu'on a un revolver à la main, on peut leur dire des choses très savantes sur l'époque de Molière, etc., etc. Donc évidemment c'est une métaphore, mais on voit bien le côté grinçant de la chose, et beaucoup de jeunes enseignants aimeraient qu'ils soient davantage encadrés par l'administration, notamment, à qui reproche souvent du laxisme. Ils aimeraient qu'il y ait une échelle visible pour tous, connue de tous, des sanctions à mettre en rapport avec les fautes, voilà, qui serait quelque chose de, comme la forme scolaire, placée au-dessus de tout le monde, et qui ferait que les élèves la connaîtraient et ne pourraient pas se plaindre lorsqu'elle arrête d'appliquer. On sait à l'époque où les étudiants en formation faisaient des mémoires professionnelles que plus de 80% des mémoires étaient centrées sur l'enseignant et jamais sur les élèves. Bon. Il y a là un effet normal de débutant, je dirais, qui est qu'on a l'obsession d'avoir la bonne séquence didactique qu'il faut pour bien faire les choses comme on les a apprises. Hein. Il y a un surmoi intellectuel tout à fait légitime et important. Le problème, c'est qu'en contexte, la séquence didactique, elle ne se fait jamais comme on l'avait imaginé, que des détails apparemment insignifiants vont parasiter la séance. Hein. Élèves qui n'enlèvent pas leur manteau, leurs gants, voire leurs écouteurs, etc. Et les enseignants sont totalement désarmés parce que le timing est mis à mal, ils ont du mal à assouplir, à rebondir, et dans les cas les pires, ils vont se durcir dans des attitudes par lesquelles ils attendent que les élèves se comportent bien avant de pouvoir commencer à leur apprendre quelque chose. Et là, ça peut durer très longtemps.
Là où le travail que vous avez réalisé, notamment en allant filmer dans les classes, ou le travail qui a été fait autour de Néopas, fait que voilà, ce dilemme entre commencer à faire cours pour pouvoir enrôler les élèves, on voit qu'il n'est pas naturellement résolu sans qu'il y ait un accompagnement et absolument un travail professionnel dans l'établissement ou en proximité.
Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est rassurant d'un côté, c'est son caractère typique. Parce que tellement de jeunes enseignants se trouvent dans cette situation qu'une fois qu'on leur dit, ça les soulage. Parce qu'ils sont souvent convaincus, malheureusement, qu'ils ne sont pas bons. Voire qu'ils se sont trompés de métier, et que du coup la tension entre les deux identités dont on parlait tout à l'heure est à son paroxysme. Avec Lucria, et vous le voyez derrière moi, nous avons essayé de fabriquer une notion, qui est la notion de passage à risque, qui nous est venue à force de visionner des séquences, d'interviewer des jeunes enseignants, parce que cette forme scolaire, qui est la forme de l'école en général, je dirais depuis les Sumériens, hein, il y a une manière de faire école dans des lieux dédiés, avec des personnels spécifiques, avec des règles particulières. Ça peut être soit sur des tablettes numériques, soit sur des tablettes d'argile, il y a quelques milliers d'années, mais c'est caractéristique de l'école. Néanmoins, il y a des formes historiques de l'école, et nous sommes encore dans cette variante de la forme scolaire, qu'on appelle souvent forme scolaire républicaine, hein, avec des caractéristiques en France qui a notamment bien distingué le monde scolaire et le monde non scolaire. C'est pas pareil dans tous les pays, etc. Et une des difficultés, la difficulté d'ailleurs majeure pour les enseignants, c'est de faire en sorte que cette forme scolaire soit installée pour les élèves, et en particulier évidemment dans les milieux difficiles. Et le problème, c'est que ça ne va plus de soi. Les vieilles recettes qui se donnaient, comme moi-même à l'époque où j'ai fait mon CPR, hein, Centre Pédagogique Régional, voilà, il y avait des recettes extrêmement simples. Effectivement, vous ne rigolez pas au mois de septembre, vous commencez à vous relâcher un petit peu à Noël, et après vous verrez, ça sera gagné, vous mettez une cravate, etc. Ça partait de l'idée qu'il y avait des rituels, et c'est normal, les institutions ont des rituels, qu'on pouvait les installer, et qu'à partir de là, les choses allaient tenir toutes seules. Le problème des situations scolaires actuelles, c'est qu'elles ne sont jamais acquises. Et qu'y compris les enseignants dits chevronnés doivent enrôler et réenrôler en permanence leurs élèves. Les chevronnés le font avec une grande économie de moyens. Si on étudie un geste, un regard, des conventions, des connivences qui ont été passées avec des élèves, ils réussissent à se préserver sur la durée et à installer, à faire tenir les situations scolaires. Mais plus on est dans le spectaculaire, les élèves se plaignent souvent d'être ensevelis sous des avalanches verbales, sous des consignes innombrables de la part des enseignants. Ces consignes perdent toute leur substance au fur et à mesure qu'elles sont répétées à satiété. Voilà. Donc il y a des choses que nous appelons des passages à risque, qui sont les moments où la forme scolaire risque de déraper, parce qu'on passe d'une activité à l'autre, par exemple. Voilà. Soit parce que les élèves passent du monde de la cour au monde de la classe, Ils rigolaient avec leurs copains il y a quelques minutes, ils étaient dans des défis, etc., etc. Et il faut désormais se comporter autrement. Ils parlaient français, il faut parler anglais. L'enseignant est obligé de faire l'appel, il baisse les yeux. Et donc, que font les élèves pendant ce temps-là? Est-ce que c'est à eux d'occuper la scène? Souvent, ils ne s'en privent pas, etc., etc. Il y a ces moments que nous étiquetons comme passage à risque et qui doivent être, selon nous, identifiés pour pouvoir être apprivoisés, je dirais, et pour lesquels nous pensons, sans parler de recettes, mais qu'il y a des manières de les problématiser, de les approcher.
Évidemment, c'est un peu plus astreignant que si Patrick était avec nous, hein, mais on a essayé vraiment de travailler, on a fait la conférence qu'il avait travaillée pour vous aujourd'hui, pour essayer d'être respectueux de votre activité, de votre attention. On va couper en deux, là, cette conférence fait 48 minutes en tout. Et ce qu'on va vous proposer, c'est un exemple qui illustre une chose dont a parlé Patrick à partir du travail de Paris 8, qui est cette question des malentendus dans les apprentissages. Il fait référence là au travail de Stéphane Bonnery, que sans doute quelques-uns d'entre vous ont lu, dans son ouvrage notamment qui s'appelle « Comprendre l'échec scolaire ». Et donc, ici, Stéphane va nous proposer... dès que ça va fonctionner, un exemple à partir de une professeure que nous avons été filmée, avec qui nous avons conduit ce qu'on appelle une auto-confrontation, c'est-à-dire on lui demande de discuter avec elle de sa propre activité. Juste avant qu'on fasse cette transition, je vous demande de regarder votre feuille, parce que je ne vous ai pas vu beaucoup noter, alors que la consigne était très clairement de noter ce sur quoi vous étiez tout à fait d'accord et ce qui pour vous faisait discussion. Je vois que vous êtes resté sous le charme de Patrick Rayou, qui parle comme un livre, et je voudrais vérifier que vous ayez bien noté quelques éléments sur votre feuille entre ce sur quoi vous êtes d'accord et ce qui discute. Vous prenez 2 minutes avec vous-même, je sais, c'est pas facile.
Je voulais juste quand même prendre quelques petites précautions avant de vous passer cette vidéo. D'abord parce que voilà, quand une collègue accepte de se laisser filmer, interroger sur sa pratique, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et une des conditions aussi pour pouvoir mettre dans du travail collectif l'activité de chacun, c'est aussi le respect qu'on manifeste par rapport à cette activité-là. Alors, pour vous raconter quand même un petit peu la situation, pour que vous puissiez comprendre de quoi elle parle. Donc, cette enseignante qui travaille dans une classe de CP, qui est maître formatrice, donc c'est pas une jeune débutante, hein. C'est une première séance avec ses CP où elle essaye de travailler en technologie ou le monde des objets pour le cycle 2, sur les objets électriques et les objets non électriques. Voilà. Et donc, pour resituer, c'est donc la première séance d'une séquence où elle va travailler là-dessus. Donc, vous n'allez pas voir l'intégralité de la séquence. On vous a choisi simplement le passage où elle parle, où on voit et où on l'entend discuter de la consigne qu'elle passe aux élèves. Voilà. Alors, j'ai envie de vous demander aussi de peut-être faire aussi 2 petites colonnes, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est à la fois, qu'est-ce que vous percevez des préoccupations qu'elle a quand elle passe cette consigne, et en même temps, qu'est-ce qui vous semble, dans la manière de passer la consigne et dans le travail qu'elle demande aux élèves, différenciateur.
Différenciateur au sens où...
où certains élèves vont en retirer un apprentissage, alors que d'autres, peut-être pas. Voilà. Et je tiens vraiment à signaler que dans un certain nombre de ces préoccupations que vous allez entendre, il y a beaucoup de choses qui relèvent de ce qui est attendu par l'institution. C'est une enseignante dont le travail est reconnu par l'institution, et ce qui peut être différenciateur pour les élèves, elle n'en a pas forcément conscience. Voilà. Et c'est de ça qu'il faudra, je pense, à un moment donné, discuter. Alors, pour bien comprendre donc à quel moment ça se situe, ce passage de consigne, donc cette enseignante de CP, au début de la séance, avait un grand sac dans lequel, petit à petit, elle a sorti un certain nombre d'objets qui lui semblaient des objets familiers pour les élèves, Donc, avec des objets, un panier à salade, une lampe de poche, un téléphone portable, etc. Elle a pris le temps de verbaliser avec eux le nom de chaque objet. Elle a pris le temps ensuite, puisqu'elle va leur demander, à partir d'étiquettes qui représentent ces objets, avec des images de ces objets, de les trier, elle prend le temps de vérifier que tous les élèves font la relation entre l'image et l'objet qui a été montré. Et c'est à ce moment-là qu'elle va passer la consigne et leur demander de faire un travail avec ces étiquettes. Je vous passe ce moment-là.
Est-ce qu'il se souvient, Lamia ? Une essoreuse à salade, très bien. Alors, Romain nous a dit. Alors, je vous dis quand même, on appelle ça aussi un batteur. Batteur. Alors ça, la lampe, et puis, apparaît. Donc, vous allez, vous allez avoir par quatre une petite enveloppe et une feuille, comme ça, de couleur. Puis je vais vous donner ensuite aussi un petit bout de pâte à fixe. Alors, je vous explique ce que je veux que vous fassiez. Écoutez bien, si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas savoir ce qu'il faut. Et là, si tu ne m'écoutes pas, tu ne vas pas savoir. Écoute-moi. Donc, je vais vous distribuer cette enveloppe avec vos étiquettes. Vous allez devoir les trier. C'est-à-dire que vous allez devoir me les ranger par famille. C'est tout. Je redis la consigne. Donc, je vous donne l'enveloppe avec les images et vous allez devoir me les trier pour me les ranger par famille. C'est tout.
Donc, c'est tout le dispositif qu'on trouve dans NeoPass, la plateforme de confrontation à sa propre activité, avec l'idée que c'est parce qu'on va faire parler quelqu'un sur ce qu'il a fait qu'on va comprendre un petit peu quelles sont ses préoccupations à lui et non pas projeter les nôtres sur ce qu'on a vu.
Il y a deux choses, il y a trier et il y a par famille. Tu peux développer un petit peu?
Alors, oui. C'est un peu compliqué c'est compliqué, je trouve, quand on donne ce genre d'exercice aux enfants, de trouver justement la bonne consigne pour qu'ils comprennent. Alors, si tu leur disais simplement de les trier, c'est pas quelque chose. D'ailleurs, il y a une petite à un moment donné dans un des groupes qui m'a dit: mais maîtresse, ça veut dire quoi trier? C'est pas forcément. Alors, je me suis dit, bon, alors pour eux, qu'est-ce qui pourrait leur parler plus? Et trier pour eux, on va dire, c'est ranger par famille, en fait. C'est vrai qu'en maternelle, souvent, ils ont eu l'habitude de trier, des objets de couleur, de forme, enfin, ce genre de choses. Et le mot famille est quelque chose qui comprennent en général et qu'ils ont eu l'habitude d'entendre. Alors, en plus, en science, il y a toujours cette difficulté de la différence entre trier, classer, ranger, qui n'est pas toujours très clair, même pour les enseignants. Donc là, je voulais vraiment. D'ailleurs, il y en a un qui, à un moment, qui m'a dit faut les ranger, maîtresse. Ranger, c'est pas encore ça. Ranger, c'est encore autre chose. Mais là, on veut vraiment rester sur ce tri pour les. Je les trie pour les mettre dans des familles, en fait. Voilà.
Et ce mot famille, vous l'utilisez souvent en classe?
Les ranger par famille. Très souvent, non. Enfin, cette année, pas pour le moment. C'est pas quelque. Alors, je vais l'utiliser en français, en vocabulaire, quand on range des mots de la même famille, etc. En science, c'était la première fois que je l'utilisais, en tout cas. C'était la première fois qu'il devait faire un tri et voilà, donc je me suis dit bon, en maternelle, j'ai compté plus sur ce qu'ils ont pu faire en maternelle pour arriver à ce qu'ils comprennent ma consigne. Apparemment, j'ai eu l'impression que ça a été assez bien compris puisqu'ils avaient bien trouvé des familles. Pas forcément celles où je voulais tout de suite où je voulais qu'ils arrivent au bout du compte, mais quand même. C'est pas grave.
Tu leur demandes de les trier par famille et tu leur donnes aucun critère.
Non.
Alors, est-ce que tu peux expliciter pourquoi tu as fait ce choix-là?
Ben pour justement, pour toujours être dans une réelle situation recherche, c'est je vais de moi-même essayer de trouver quelle famille je peux bien faire sans orienter. C'est pour ça que tout à l'heure dans l'histoire du batteur, je me suis trompée parce que j'avais peur de dire batteur électrique et je voulais surtout pas prononcer le mot électrique. Du coup, voilà, je voulais vraiment que d'eux-mêmes ils essaient de voir quel genre de famille ils pouvaient faire pour ensuite effectivement aller un petit peu plus loin. C'est ce qui s'est passé après, on verra après. Donc voilà,
je vais m'arrêter là le passage. Juste pour vous raconter aussi la suite de la séance, donc ils ont travaillé par groupe de 4. Ils ont fait donc des familles en catégorisant les objets en fonction de leurs propres préoccupations. Hein, donc on a eu les objets pour jouer, les objets qui servaient à faire la cuisine, les objets qui font de la lumière. On a eu voilà un certain nombre de tri qui ont été faits en fonction des la manière dont les enfants ont un usage des objets. Pour les amener à la catégorisation qu'elle attendait, avec les groupes, elle passe une deuxième fois, donner une deuxième consigne. Et elle, dans un deuxième temps, elle leur demande « Bon, ben maintenant, je ne veux plus que deux familles. » Ce qui va amener un certain nombre de groupes à produire les deux catégories qu'elle attendait, électrique, non électrique, mais pas tous. Voilà. Dernière phase de la séance, elle donne la parole à chacun des groupes. Elle manifeste, et dans le, ça part énormément dans l'autoconfrontation, le souci de valoriser ce que chaque groupe a produit. Donc chaque groupe peut dire quelles sont les différentes familles qu'il a fait. Et elle termine la séance en faisant afficher le travail des groupes qui ont produit les deux catégories qu'elle attendait. Donc, pourquoi ça m'a semblé intéressant de vous montrer ce petit moment de classe et ce qu'on dit l'enseignant, c'est qu'on sent énormément dans ses préoccupations, dans son souci pour organiser la classe, d'abord de mettre en place un certain nombre de recommandations comme le travail de groupe. Elle le manifeste plusieurs fois, il faut les faire travailler en groupe, même si ce n'est pas compliqué. Donc, une retraduction d'une certaine prescription, hein, de ce que nous-mêmes, on a pu parfois entendre à l'UFM, il faut faire du travail de groupe. Il faut que les élèves soient en activité. Il faut que les élèves soient en situation de recherche. Il faut que ça vienne d'eux. Ce sont plein de préoccupations qui manifestent des formes de croyances qui circulent dans le milieu pédagogique, milieu enseignant, mais par contre, qui de manière assez invisible pour elles, peuvent produire de la différenciation, c'est-à-dire que tous les élèves ne vont pas retirer le même bénéfice de cette séance. Il y a peut-être quelque chose de différenciateur, et ça, Patrick Rayou en parlait un petit peu, c'est cette proximité entre les objets de la vie qu'on ramène dans une situation scolaire, et qui, pour certains, donc peuvent leurrer les élèves, c'est-à-dire que on pense que c'est ce qu'ils sont dans la vie, ces objets, c'est la manière dont on va les traiter en classe. La deuxième chose qui me paraissait différenciatrice là-dedans, c'est à aucun moment le fait que telle ou telle famille constituée par les groupes répond à l'attente qu'elle en a, à aucun moment ça n'apparaît explicitement pour les élèves que c'est pour cette raison-là que c'est la bonne famille.
On cherche à trier les objets électriques,
voilà,
qui marchent avec de l'électricité. Mais donc, elle le dit, je veux pas leur dire, puisque si je leur dis, ils auront tout trouvé, ils n'ont plus rien à faire.
Donc la seule manière de valider après les bonnes réponses qui correspondent à ce qu'elle attendait, c'est l'affichage au tableau. Et là, tout le monde perçoit qu'effectivement, c'est ce qu'on attend, parce qu'il y a une forme de connaissance des élèves du fonctionnement de la classe où on sait que c'est ce qui va être affiché au tableau qui en fait correspond à l'attente de l'enseignant, mais ça ne sera pas explicité le pourquoi c'est ces familles-là que j'attendais. Voilà. Donc, pour un certain nombre d'élèves, ça va être clair, ceux qui sont familiers des usages scolaires, que c'est, on a un déplacement, l'objet de la vie, quand il est à l'école, on en attend autre chose. On l'analyse du point de vue, elle en parle un petit moment quand elle parle des familles en français. C'est dans la discipline technologie que la catégorisation électrique, non électrique prend un sens. Là, ça n'apparaît pas explicitement pour les élèves. Voilà.
Et tu dis, il y a ceux qui vont comprendre qu'on est bien en train de classer les objets électriques et que le but de la tâche de la maîtresse, c'est bien ça. Et il y a ceux qui vont rester collés sur range et qui risquent de jamais comprendre qu'on est en train de faire de la techno. C'est ça pour toi le malentendu, il est là ?
Pour moi, le malentendu principal, il est là. Voilà. Après, il faut aussi se garder de porter des jugements trop péremptoires. C'est la première séance d'une séquence qu'on a observée, on n'a pas observé la suite. Voilà, je tiens aussi à prendre ces précautions-là.
Donc encore une fois, c'est pas... Et Stéphane a insisté à tout le respect qu'on doit à cette collègue, et pour dire que c'est pas le problème de cette collègue, mais c'est bien d'un problème professionnel qu'on discute là, et qu'on réinterroge un certain nombre de doxas. À quel moment il faut tout dire à des élèves ? À quel moment il faut les mettre en groupe et pourquoi faire ? Comment ne pas confondre la mise en activité intellectuelle et l'agitation ? Comment faire pour que les objets qu'on ramène de l'extérieur soient considérés bien comme des supports à un travail intellectuel et pas des machins avec lesquels on va bidouiller comme au centre aéré ? Toutes ces questions-là sont évidemment redoutables pour tous les enseignants. C'est bien pour ça qu'elle nous a semblé intéressante, hein, c'est que c'est pas une situation exceptionnelle, c'est vraiment une situation ordinaire. Et si vous lisez le travail de Sylvie Seb autour de la catégorisation, vous verrez que une des grosses difficultés avec ces élèves, avec les élèves en général, c'est de dire, c'est pas de trier, c'est de trouver quel est le critère de tri, quel est le critère de catégorisation, quel est le critère de catégorisation. Et c'est bien ça qui va être l'effet différenciateur. Encore une fois, on est là juste pour s'agiter un peu les neurones, hein, dans un moment compliqué, mais on prétend pas du tout que vous allez sortir d'ici avec des réponses claires sur ces choses-là. On vous agite un peu sur un certain nombre de choses.
Mais pour... Pardon. Juste pour continuer quand même là-dessus, ça fait partie aussi des termes du débat. Quand Jean-Yves Rochex a sorti avec le livre « La construction des inégalités scolaires », il met en cause une certaine forme scolaire qui privilégie la mise en activité des élèves au détriment de la construction, de la mobilisation intellectuelle. Ça a été pris par beaucoup de gens dans le monde pédagogique comme une attaque des pédagogies nouvelles et des pédagogies actives. Il ne s'agit pas forcément de mettre en cause ces différentes pédagogies et ce qu'elles défendent, mais par contre, ce qui me semble important, c'est que ces doxas, ces croyances partagées qui circulent peut-être aussi à travers ce qu'on entend des pédagogies actives, des pédagogies nouvelles et ce qu'on en retient, et qui circulent dans le monde enseignant, c'est cette idée qu'il faut que les élèves soient en activité, et on détourne parfois aussi ces pédagogies sans voir la construction intellectuelle qu'on peut faire avec, et sans se poser la question de la construction intellectuelle qu'on cherche à produire au-delà de l'activité. Voilà.
Monsieur ?
Oui, je voyais un autre malentendu dans ce petit exemple, qu'elle aborde elle-même d'ailleurs dans l'analyse après. Ça concerne le vocabulaire dans la consigne. Et on sent bien qu'elle a du mal à expliciter pourquoi elle a choisi cette expression « rangée par famille ». Et à la fin, elle dit « c'est un mot qu'ils comprennent en général ». Et le « en général » montre bien aussi la limite à laquelle elle se heurte. Ben. Même si elle va pas au fond du voilà, parce que dans la voilà, est-ce que tout le monde va entendre exactement ce que je veux dire? C'est un problème de fond.
Tout à fait.
Et cette question de l'explicitation, qui est un des objets qui a été mis en avant, y compris dans le référentiel sur la refondation de l'éducation prioritaire, on voit bien que du coup cette question de l'explicitation, c'est pas une question qui est si simple que ça.
Il suffit pas de dire j'explicite. Encore faut-il que les deux activités se branchent, madame.
Oui, il me semblait que le malentendu était également partagé par l'enseignante, puisqu'elle explicite le terme trier, et il a fallu l'intervention donc de la personne qu'elle avait en face d'elle pour comprendre que c'était le mot famille qui posait souci. Il y avait aussi un malentendu de ce côté-là, et j'irai plus loin. Si le terme de la, enfin si l'objectif de la séance était de trier, à ce moment-là, ils avaient tous atteint l'objectif, Mais puisqu'ils ont tous trié et qu'il n'y avait pas de critères de tri d'établi.
On voit bien la logique, hein, qui est la logique intellectuelle, que vous avez raison de dire, monsieur, qui peut être très fréquente. Et d'autant plus fréquente que, pour un enseignant du premier degré, il y a la question de la polyvalence, hein, aussi. C'est-à-dire que on a à enseigner l'ensemble des disciplines quand on est un enseignant du premier degré. Donc être à jour avec les obstacles épistémologiques de chaque discipline, c'est compliqué. Même si, par ailleurs, dans le second degré, il peut y avoir d'autres obstacles liés au fait que la maîtrise disciplinaire qu'on a fait qu'on ne comprend plus pourquoi des élèves ne maîtriseraient pas un contenu. Je ferme. Ce qui est très clair, c'est que, ici, ce malentendu, il est bien celui-là, mais qui vient de quoi? Qui vient de ces doxa à elle, qui sont, en gros, si je les résume, pour qu'un élève soit en activité, il faut que j'ai une situation la plus ouverte et la plus exploratoire possible, grâce à laquelle il va se mettre en activité, il va se mettre au travail, et donc, progressivement, par mon guidage, je vais l'amener à avoir la bonne chose. Mais il y a quelque chose là qui n'est pas résolu de qu'est-ce qui se passe conceptuellement. Et pourquoi donc il faudrait s'interdire de dire aujourd'hui, ce que je vous demande de faire, c'est de mettre d'un côté tous les objets qui marchent avec un moteur électrique, peut-être ma consigne n'est pas bonne, et tous ceux qui fonctionnent sans moteur électrique, pourquoi pas ? Ou qui fonctionne avec une autre énergie, enfin, etc. Pour bien montrer qu'en fait, on est en techno, et que la question, c'est bien des questions autour de l'énergie, de la production d'énergie, etc. Donc là, il y a des mécanismes puissamment différenciateurs, entre Kevin qui va penser que, bah, du moment qu'on a rangé les bleus avec les bleus, les jaunes avec les jaunes, tout va bien, et Samantha qui aura bien compris que, ah oui, on est en techno, ok, je comprends. Alors, Cynthia, tu as essayé de continuer à produire de quelque chose qui alimente notre réflexion à partir d'un autre support.
Est-ce que un autre support dont a parlé un peu
Stéphane.
C'est Patrick Rayou, à savoir l'intervention de Jean-Yves Rochex. Donc on vous a choisi des morceaux particuliers, enfin des séquences particulières. Le but du jeu étant de réinterroger certains éléments qui ont été évoqués par Patrick Rayou, mais également d'apporter peut-être une vision un peu plus sociologique sur la question des élèves dans l'éducation prioritaire et peut-être du renforcement des inégalités à l'école.
Juste pour terminer sur cette petite vidéo, ce que ça nous renvoie quand même comme question, c'est à quelles conditions ce travail sur le concret de la classe. Comment on peut travailler collectivement là-dessus? Est-ce que on arrive à faire du collectif sur autre chose que comment on fait pour faire se ranger les élèves? Comment on fait sur ce qui est réellement différenciateur? À quelles conditions on peut en faire un objet de travail collectif? Voilà.
Et avec quels outils?
Les plus importants pour les différents types d'élèves.
Et alors vous avez publié un ouvrage qui a été un moment important, je crois, et qui a marqué la recherche en éducation, qui était justement « École et savoir dans les banlieues et ailleurs ». Alors, si j'ai bien compris cet ouvrage, hein, vous nous montrez que un certain nombre d'enfants des milieux populaires ont un rapport trop exclusivement fonctionnel au savoir, technique en quelque sorte, centré sur leur usage au sens immédiat et matériel du terme, alors que les bons élèves traditionnels savent, eux, qu'il faut comprendre, qu'il faut construire des concepts et ont un rapport plus distancié avec les exercices au sens matériel du terme. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette idée et comment vous la travaillez aujourd'hui?
Oui, on est toujours d'accord, même si on l'a...
Vous l'a fait évoluer.
On l'a fait évoluer. Je pourrais dire que les élèves en difficulté oscillent entre deux choses. C'est-à-dire soit un rapport au savoir de type instrumental pour plus tard, avec des choses du type pourquoi est-il important d'apprendre à lire ou à écrire, mais c'est pour plus tard quand on sera grand, quand on voudra un métier. C'est-à-dire un rapport à un plus tard qui ne donne pas sens, qui ne permet pas d'identifier, de reconnaître la nature même des apprentissages de lycée maintenant du présent d'élève.
Ouais, voilà. Rousseau disait déjà ça, qu'on ne peut pas, à 8 ans...
Mais paradoxalement, c'est ce qu'on fait semblant de demander aux élèves de milieu populaire aujourd'hui avec les rhétoriques du projet, etc. Donc, d'un côté, ce rapport, on pourrait dire instrumental à un plus tard qui ne permet pas de donner sens à un présent, et puis de l'autre côté, peut-être un certain enfermement dans l'effectuation de tâches, la succession de moments de la classe, du rituel, etc., dont ils ne perçoivent pas qu'il y a un lien avec des objets de savoir transcendants ou avec des registres de savoir transcendants.
Alors, est-ce qu'on peut dire, pour reprendre le titre d'un des derniers ouvrages de Piaget, que certains sont dans le réussir et d'autres dans le comprendre, certains dans le court terme, le faire, la tâche, le fait de s'activer en disant « j'ai fait mon travail, après tout j'ai fait ce qu'on m'a dit », et puis d'autres savent que l'important c'est d'abord de comprendre les mécanismes et d'acquérir une maîtrise à la fois des savoirs et des concepts.
Oui, on a effectivement certains élèves pour qui le rapport à l'école ou au savoir, c'est de s'acquitter de ce qu'il y a à faire.
Voilà, on fait son travail, voilà. Et puis d'ailleurs...
Se mettre en règle, on pourrait dire,
on se met en règle. Ouais.
D'une certaine façon, d'autres élèves, plus à l'aise, savent qu'on n'est jamais quitte avec le savoir. Et donc, savent qu'au travers d'exercices d'apprentissage, on est en débat, on est en rapport avec un registre intellectuel qui transcende toutes les tâches, et eux ne sont pas quittes, ne se mettent pas en règle, mais se mettent en débat avec des registres de savoir. Et ça, c'est toute la différence et toute la difficulté pour l'institution scolaire, de ne pas en rajouter sur les difficultés propres des élèves en question.
Est-ce que vous vous situez dans le prolongement de travaux un peu plus anciens ? Je pense aux travaux de Viviane Isambert-Jamati sur le fait que les pédagogies implicites sont toujours des pédagogies sélectives et qu'il faut toujours expliciter si on ne veut pas être sélectif socialement. C'est un peu quand même, j'allais dire, sous-jacent dans votre propos.
Ah, c'est bien plus que sous-jacent, c'est explicite. La référence au travail de Viviane Isambert-Jamati est explicite chez nous. Alors, Viviane est d'ailleurs une des rares sociologues françaises qui, dès les années 70-80, s'intéresse
à cette question.
À cette question et au concret des manières de transmettre ou d'apprendre des savoirs dans l'école. Une autre référence explicite pour nous, c'est le sociologue anglais Basil Bernstein qui travaille ces questions-là, y compris d'ailleurs parfois de manière un petit peu polémique ou en débat avec le travail de Bourdieu. Donc c'est très explicitement cette filiation-là que nous essayons de faire vivre. Tout en sachant que la question de l'explicitation est compliquée parce qu'il ne suffit pas d'expliciter en parole. Voilà, l'explicitation, voilà. C'est de pouvoir faire que les élèves éprouvent.
Et qu'ils soient dans des situations voilà. Explicites, voilà. Pas simplement devant des propos explicites.
Voilà.
Je crois que c'est
tout
important.
Ça, c'est très important parce qu'on peut avoir des discours qui coexistent avec l'enfermement dans des Absolument. Tâches et qui ne sont d'aucune utilité, même s'ils permettent de dire qu'on a explicité.
On peut avoir des sortes de discours qu'on développe pour justifier en permanence, pour répéter en permanence, mais maintenir des tâches qui sont, elles, enfermantes.
Ben, des tâches ou des consignes. Et puis, simplement, je crois aussi que nos travaux montrent que, à tâches ou consignes équivalentes, les situations sont toujours réinterprétées par les élèves. Et qu'il me semble que ce qu'il faut essayer de développer chez les enseignants, c'est une vigilance à cette hétérogénéité des manières de faire des élèves qui sollicite toujours l'explicitation, les postures secondes ou réflexives dont on parlait chez les élèves, au lieu de se satisfaire parfois de traces d'activités qui ne disent pas comment l'activité a été conduite. Je pourrais donner des tas d'exemples de situations de classe où les élèves parviennent au résultat attendu sans avoir fait le travail que l'enseignant présuppose nécessaire pour parvenir au résultat attendu.
Absolument. Alors, il y a des attitudes de divination, il y a des attitudes de débrouillardise, mais tout ça ne signifie pas qu'il y a travail intellectuel.
Ce sont dans des micro-différences comme ça que l'on voit des récurrences de différences entre élèves qui vont construire l'inégalité et que l'on voit que la vigilance de l'enseignant doit être extrême et que, on pourrait dire, l'enfer se niche dans les détails. Et c'est dans la vigilance à des détails comme ça, peut-être plus, que dans l'explicitation des consignes, que les liens entre les tâches peuvent se construire pour arriver à reconnaître ce registre qui les unifie, dont je parlais tout à l'heure.
On reprend la question tout à l'heure de activité-activisme.
Votre collègue Elisabeth Bautier, avec qui je crois vous avez beaucoup travaillé, a récemment publié sur l'école maternelle et évoque cette espèce de suractivité dans laquelle on met parfois les enfants, au détriment de la posture seconde ou réflexive.
Tout à fait.
Vous partagez cette conception-là ?
Je partage complètement. Ce travail a été fait aussi par Sylvie Seb dans sa thèse en psychologie sur l'école maternelle. Mais je crois que cette suractivisation, ou peut-être cette idéologie de l'activisme ou de l'activité mal pensée, est peut-être une manière dont la critique de l'école un peu traditionnelle, un peu transmissive, s'est réorientée. Et on a un peu de symétrie, quoi. Je crois qu'on ne sortira pas d'une école dogmatique traditionnelle par une école activiste qui ne pense pas le registre propre aux apprentissages, par-delà la diversité ou même l'attractivité des activités. Donc on a parfois le souci de proposer plein de choses aux élèves, voire de leur proposer les choses les plus attractives, mais si ce souci est déconnecté du souci de leur faire reconnaître, toujours dans les deux sens du terme, les registres de savoir propres qui vont unifier les activités qu'on leur propose, le risque est de remplacer un mal par un autre mal.
De remplacer au fond le dogme par du bricolage, mais sans jamais atteindre hein, ce qui est la véritable activité mentale. Donc oui pour l'activité, mais dès lors qu'on est attentif à l'activité mentale, à ce qui se passe pour l'élève, non pas simplement dans la classe, mais dans sa tête.
Tout à fait.
Hein, ce qu'il est en train de comprendre.
Ce qui n'est pas très simple, parce que ça ne se voit pas ce qui se passe dans la tête. Mais ce qui veut dire la vigilance sur l'activité, sur les gestes, toutes ces choses-là, et vigilance sur la régulation, sur ce qu'on attend des uns et des autres, y compris sur l'ordre dans lequel on les fait parler.
Absolument.
Alors, c'est tout à fait. On a fait la classe à une expérience, elle a fait une sortie, etc. Et le maître, dans la classe, en appelle au souvenir des élèves pour raconter ce qui se passe. S'il n'est pas suffisamment attentif, on voit très bien que les meilleurs élèves vont parler en premier et vont mobiliser les souvenirs les plus facilement mobilisables. Et ceux qui vont venir après, qui sont moins portés à prendre la parole, etc., vont avoir une tâche plus difficile à faire, puisque ce qui était le plus facile à dire a déjà été dit. Et donc, très vite, le maître peut en conclure que ses élèves ne se souviennent pas, ou n'ont pas été attentifs, ou n'ont pas les capacités mémorielles, etc., alors qu'en fait, la situation a changé, sans qu'ils s'en rendent compte, au fur et à mesure que les premiers ont parlé, et la situation est plus difficile, et on va mettre au compte des élèves ce qui est au compte d'un changement de situation que le maître n'a pas. Auquel le maître n'a peut-être pas été suffisamment attentif. Donc des exemples comme ça, on peut en donner à foison, qui montrent que les différences, les petites différences qui vont produire des grandes inégalités, se construisent souvent dans des détails, et dans des détails qui sont parfois un peu éloignés des querelles d'école un peu dogmatiques sur l'enfant au centre ou le savoir au centre, la transmission frontale ou le travail de groupe ou des choses comme ça, qui sont pas le plus intéressant si on les pense pas en rapport avec l'activité intellectuelle.
J'aimerais qu'on aborde maintenant le champ, on va dire, un petit peu plus sociologique de votre travail. Vous êtes intéressé bien sûr aux inégalités sociales dans les apprentissages. Vous nous avez dit que vous aviez été un des artisans des ZEP, un des artisans de la première heure, et vous avez étudié la mise en place de ces dispositifs des zones d'éducation prioritaire. Alors on se souvient, dispositif créé en 1981 par Alain Savary, avec cette idée à l'époque, donner plus à ceux qui ont moins. Alors vous avez regardé comment ça s'était passé, vous avez suivi l'évolution. Comment s'est déroulée cette évolution? Où en est-on aujourd'hui?
Je crains ne pas être très optimiste sur cette évolution.
Ça a été tourné il y a à peu près 4 ans, je pense, Cynthia, ça? Cette vidéo, 4-5 ans, je pense. Hein.
L'idée de base est effectivement celle-ci, un peu liée à ce qu'on pouvait appeler les pédagogies de compensation ou les idéologies de compensation, que résume bien le slogan que vous utilisez, donner plus à ceux qui ont le moins, toute la question étant plus de quoi et moins de quoi. Voilà. Parce que, évidemment, il ne s'agit pas simplement de donner plus de la même chose à des élèves qui sont déjà en difficulté sur un certain nombre de choses.
Ou en refus, à fortiori.
Voilà. Et l'idée quand même tout à fait importante, je crois, était de dire que l'égalité formelle, ou le traitement formel de tous les élèves ne suffit pas à combattre les inégalités, puisque l'inégalité, ce qui est dominant dans la réalité, c'est l'inégalité.
Donc l'indifférence aux différences, comme disait Bourdieu, reste quand même un facteur d'inégalité et d'injustice.
Voilà. Néanmoins, on peut avoir une prise en considération des différences qui s'aveugle sur les différences pertinentes ou sur leur manière de les traiter. Ce qu'on a observé, on pourrait dire plusieurs choses sur les ZEP. La première, c'est qu'on a eu assez rapidement, avec l'idéologie du projet pas toujours très bien pensée, une mise en œuvre des politiques ZEP qui, dans certains endroits, ont donné des choses tout à fait intéressantes, mais de manière assez dominante, ont donné lieu à une profusion de projets, de réalisation d'activités se situant en marge de l'ordinaire des apprentissages et de l'activité des classes, quoi. Avec le souci premier de faire proche des élèves. Donc familiarité ou éventuellement même attractivité. Donc leur proposer des choses qui les mobilisent pour faire ce qu'on leur propose de faire. Mais la question que moi je pose toujours, c'est à ce type de projet, c'est comment on revient de l'extraordinaire du projet qui mobilise une énergie professionnelle considérable à l'ordinaire des classes. C'est-à-dire comment, une fois les tréteaux du spectacle ou de l'exposition démontés, qu'est-ce qu'il reste comme apprentissage, comme disposition ou rapport au savoir et à l'apprentissage, au-delà de l'effectuation de ce projet, qui puisse être mobilisé dans d'autres contextes, en particulier dans les situations ordinaires.
Pourquoi vous suspectez a priori ces activités d'être en quelque sorte inefficaces en termes d'apprentissage ?
Je ne suspecte pas. Ce que nous avons travaillé, c'est quand même sur la base de travaux de recherche. Donc, c'est pas simplement les questions pourraient apparaître comme des suspicions, mais quand on regarde à la fois la réalisation de ces activités, quand on regarde surtout, et c'est, à mon sens, c'est plus inquiétant, la manière dont les politiques se sont emparées de cela, et politiques depuis le ministère jusqu'aux responsables, aux élus locaux ou aux financeurs, pour spectaculariser des choses inaugurables au détriment, la plupart du temps, ou tout au moins d'un intérêt pour les apprentissages les plus ordinaires, là, ce sont des constats, des analyses qui reposent sur l'analyse de centaines de projets de zones d'éducation prioritaire, sur des entretiens, des choses comme ça. Donc, ce que je pense pouvoir généraliser, c'est pas la suspicion ou c'est pas l'idée « c'est inefficace ». Ce que je pense nécessaire de généraliser, c'est la vigilance sur quel est le rapport entre des choses que l'on peut développer, qu'il est peut-être utile, nécessaire, légitime de développer en marge de l'ordinaire des situations d'apprentissage, et cet ordinaire. Quel est le rapport entre des mobilisations très importantes qui investissent beaucoup de temps et le quotidien des classes et des apprentissages. Quel est le rapport lorsqu'on vise à mettre en situation lorsqu'on vise à proposer aux élèves des situations ou des activités plus attractives, plus motivantes, comme on va dire, avec la motivation pour les enjeux d'apprentissage. C'est-à-dire comment on passe de la motivation pour tel ou tel projet et de la réalisation des tâches dans le projet à la mobilisation et la reconnaissance des enjeux de savoir qu'il y a dans le projet. Et un certain nombre de nos travaux montrent aussi que dans la réalisation des projets, on va retrouver des modes de division sociale du travail entre élèves qui épousent étroitement les différences et les inégalités dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire que les uns vont écrire les textes et les autres vont coller les feuilles sur lesquelles les premiers ont écrit les textes
pour faire les panneaux d'exposition. Et ceux qui ne savent rien faire ne feront rien parce que le résultat serait moins bon s'ils faisaient quelque chose.
Voilà.
Mais est-ce que néanmoins, on ne peut pas imaginer, plutôt que d'avoir l'extraordinaire et l'ordinaire, que l'ordinaire devienne extraordinaire et qu'il y ait une vraie mobilisation sur les savoirs scolaires à travers ces savoirs eux-mêmes et la capacité qu'ont ces savoirs de susciter l'intelligence, de susciter un véritable intérêt des élèves. On sait que, quand même, dans un certain nombre de lieux, des gens se sont battus pour cela.
Bien sûr. Pour moi, c'est évident que la mobilisation politique sur la question des ZEP ou sur la lutte contre les inégalités et l'échec scolaire doit d'abord, essentiellement, porter sur la question des apprentissages dans l'objectif de les rendre à la fois plus efficaces et plus signifiants socialement.
Plus mobilisateurs aussi quand même, parce qu'il faut bien les mobiliser les élèves.
Je crois que s'ils sont signifiants socialement, ils seront mobilisateurs. Massivement, ce que les responsables de la politique ZEP, quelles que soient les appartenances ministérielles, ont mis en avant, ce sont des choses en marge, spectaculaires.
Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro des grands témoins de l'éducation.
Sur cette question du rapport au savoir, je voudrais vous signaler un bouquin assez récent et qui fait un peu le résumé de tout ce qu'on vient de travailler là. Vous voyez, il n'est pas très épais, il doit coûter une douzaine d'euros. Donc c'est quelque chose qui peut se mettre dans une salle des maîtres. Je veux dire, c'est pas un truc spécialement réservé aux gens qui font des masters en éduc, quoi. Ça s'appelle « Le rapport à l'école des élèves de milieu populaire ». Et l'auteur, c'est Jacques Bernardin. Et voilà, je voudrais vous signaler que c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant, y compris pour des pistes simples et concrètes de comment faire pour discuter avec les élèves de « c'est quoi pour toi ?» apprendre. Comment on fait pour apprendre ?